Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mercredi, nous sommes le 6 novembre. Les précipitations intenses du 17 octobre avaient entraîné des crues historiques. L'arrêté d'état de catastrophe naturelle a été publié hier pour 41 communes. Genas, l'une des 8 villes rhodaniennes situées dans le périmètre du plan particulier d'intervention de la centrale nucléaire du Bugey, cette commune va accueillir pour la première fois la réunion de la commission locale d'information du Bugey pour une réunion publique. La préfecture du Rhône confirme qu'aucun supporter de la SSE ne sera admis dans l'enceinte du Groupama Stadium dimanche pour le derby. La fête des Lumières 2024, la fête des Lumières qui fête son 25e anniversaire, au programme des nouveaux lieux, mais aussi des œuvres qui font leur retour. Explication dans cette édition avec Grégory Doucet et Julien Pavillard. Et puis on connaît le candidat français pour la prochaine grande finale du Bocuse d'Or qui se tiendra à Eurexpo au début de l'année 2025.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les précipitations intenses du 17 octobre avaient entraîné des crues historiques et des dégâts considérables, notamment dans la vallée du Gier. L'arrêté de reconnaissance d'état de catastrophe naturelle était très attendu par les habitants, communes et entreprises touchées. Cet arrêté a été publié ce mardi 5 novembre. Les personnes concernées doivent faire leur déclaration de sinistre à leur compagnie d'assurance au plus tard dans les 30 jours après la publication de l'arrêté au JO. 41 communes sont concernées, comme Brinda, Chabanier, Chaponnet, Chaponneau, Charlie, Condrieux, Couzon-Mondeur, Marennes, Messimy, Miry, Montagny, Mornant, Neuville, Orliena, Oulin-Pierre-Bénite, Rochetaillé, Saint-Didier-au-Mondeur, Saint-Genis-Laval, mais aussi Saint-Romain-Angier, Saint-Symphorien-d'Ozon, Sainte-Foy-les-Lyons ou encore Soucieux-en-Jarret. Genas est l'une des 8 villes rhodaniennes situées dans le périmètre du plan particulier d'intervention de la centrale nucléaire du Bugey. Ce PPI englobe 121 communes de l'Ain, du Rhône et de l'Isère. EDF qui emploie plus de 1300 personnes à Saint-Vulbas. Pour la première fois, la commission locale d'information du Bugey propose sa réunion publique annuelle en dehors du département de l'Ain et ce sera ce mercredi à Genas à 18h dans la salle des mariages de l'hôtel de ville. Les habitants sont invités à y participer pour tout savoir sur cette centrale qui couvre 40% des besoins en électricité de la région. Sera aussi présenté le site Ionisos à Dagneux, une entreprise spécialisée dans la stérilisation, la conservation et la réticulation dans les domaines de la santé, des cosmétiques ou encore de l'emballage. L'an dernier, EDF et Ionisos avaient entre autres évoqué les besoins en eau de la centrale avec en filigrane la sécheresse. La préfecture du Rhône confirme qu'aucun supporter de l'AS Saint-Étienne ne sera admis dans l'enceinte du Groupama Stadium dimanche pour le derby, mais aussi sur les communes de Mézieux, Décines et Lyon. La circulation et le stationnement sur la voie publique seront interdits dans le centre-ville de Lyon. L'accès au stade et aux abords sera interdit pour les Stéphanois. Aucun derby ne s'est disputé dans le Rhône en présence des ultras et sympathisants de la SSE depuis 2013. À l'époque, c'était encore à Gerland.
Lyon demain, créateur d'envie.
La fête des Lumières 2024 aura lieu du jeudi 5 au dimanche 8 décembre. Au programme des nouveaux lieux comme la Croix-Rousse, le Gros Caillou, la Cité Jardin de Gerland qui fête son centenaire ou encore le musée Henri Malartre de l'automobile situé à Rochetaillé mais propriété de la ville de Lyon. 6 œuvres font leur grand retour cette année comme clin d'œil au passé car cette édition 2024 c'est bien la 25e édition. Grégory Doucet, le maire de Lyon.
C'est une année particulière, c'est une édition particulière puisque cette année c'est les 25 ans. Donc on aura toujours bien évidemment un focus sur la création artistique lumineuse. C'est très important d'avoir des œuvres lumière qui reflètent l'engagement de la ville pour la création. 32 œuvres cette année. Mais dans ces 32 œuvres, on a aussi un clin d'œil au grand héritage de la fête des Lumières avec 6 œuvres anniversaires qui ont été, choisies parmi celles qui, au cours des précédentes éditions, ont recueilli un accueil extrêmement enthousiaste du public. Donc on aura à la fois de l'actuel, de l'ancré dans son temps, mais aussi ce clin d'œil, ce retour sur des œuvres passées. Ce que l'on souhaite, vous savez, c'est que cette fête populaire, qui est un événement dans l'espace public gratuit, un des grands événements en France, accessible à toutes et à tous gratuitement, et c'est important de le rappeler. On voulait que cette fête des Lumières, pour cette 25e anniversaire, eh bien, puisse être vraiment la fête des Lumières de tous et toutes, de ceux aussi qui se souviennent de leur première fête, qui ont pu vibrer, ressentir de fortes émotions à la découverte de certaines œuvres il y a quelques années. Donc on avait envie de mélanger à l'occasion de cet anniversaire eh bien, du passé et du présent. On a choisi 6 œuvres parmi celles, je le disais un peu plus tôt, qui ont suscité le plus d'enthousiasme. Alors il y a cette image de la boule à neige pour la statue équestre de Louis XIV sur la place Bellecour, qui faisait rêver, qui fait toujours rêver d'ailleurs, puisqu'on la trouve encore un peu partout à Lyon, cette image en carte postale. Et bien cette année, et bien nous reverrons cette œuvre. Alors elle est légèrement revisitée parce que évidemment il a fallu la retravailler, comme les autres œuvres d'ailleurs que nous retrouvons, les 5 autres. Les artistes ont repris le travail de manière à nous offrir et bien la même émotion, mais avec quelques petits aménagements.
Comment elle a évolué, la Fête des Lumières, en 25 ans, au-delà de la technologie ?
Elle a gardé quand même, il faut le dire, son esprit populaire, ouvert à toutes et à tous depuis son origine. Vous savez qu'il y a eu des évolutions qui ont été, on va dire, liées à des contraintes extérieures, notamment l'accroissement des mesures de sécurité depuis 2015. Mais la Fête des Lumières, vous savez que sur les 4 dernières années, elle a notamment aussi évolué parce qu'on a voulu la rendre plus accessible, plus inclusive. On a souhaité aussi qu'elle reflète l'engagement de la ville de Lyon, de faire de la ville de Lyon la ville des enfants. Donc on a aussi au Parc Blandan maintenant, depuis 2020, eh bien un site dédié avec une programmation, des créations dédiées pour les tout-petits, pour les plus jeunes, pour les familles aussi bien sûr, parce que l'idée c'est que chacun puisse venir avec ses enfants et profiter de cette programmation très particulière, conçue vraiment à hauteur d'enfants.
Place de la République, l'artiste allemand Philippe Franck va recréer un récif corallien éphémère avec des filets de pêche recyclés et récupérés à Marseille. Nous avons rencontré l'artiste Lumière.
Pour la Fête des Lumières, j'ai préparé une nouvelle installation qui s'appelle Coral Ghost. Elle aura place sur la place de la République. Et c'est une installation qui thématise un récif corallien. Et à partir des filets de pêche, à partir des anciens filets de pêche recyclés, aussi nommés filets fantômes, je vais créer un récif corallien abstrait, à peu près 16 mètres de longueur, fois 9 mètres de largeur et 5 mètres de hauteur.
Elle est facile à saisir, cette place de la République ?
Ok, la place, elle m'a inspiré l'année passée. J'ai adoré l'eau sur la place. Ça m'a donné l'inspiration de l'idée de travailler sur un thème de eau, de l'eau. Et le message, c'est de mettre un petit peu de lumière sur le sujet de la pollution des océans, la surpêche, la destruction des récifs coralliens. Et j'essaie d'inspirer les gens juste de réfléchir et penser un petit peu de notre connexion à la nature, notre indépendance de la nature, notre indépendance de cette planète. La planète n'a pas besoin de nous, mais nous, on a très besoin d'elle pour survivre.
La boule à neige va revenir sur la place Bellecour, ce qui répond à une forte demande du public qui avait été séduit par cette boule autour du cheval de Louis XIV en 2006 puis 2007, mais en 2006 la tempête avait rendu l'œuvre très éphémère. L'auditorium jouera aussi sa partition, le thème « La mémoire » avec des bandes VHS tissées. Pour en savoir plus sur cette édition des 25 ans, nous avons rencontré Julien Pavillard, le directeur artistique de la Fête des Lumières.
Oui, c'est une édition particulière parce qu'on voudrait profiter de ces 25 ans pour fêter l'anniversaire de la Fête des Lumières. Alors on ne va pas faire un anniversaire traditionnel, mais on fait des clins d'œil à des œuvres qui ont déjà été à la Fête des Lumières, des œuvres qui ont remporté un grand succès public, c'est ça pour nous qui était important, et des œuvres qui sont un petit peu anciennes parce qu'on voulait aussi pouvoir montrer l'évolution de la lumière, des techniques et de ce qu'on projette aussi aux Lyonnais, aux visiteurs, et la différence qu'il peut y avoir entre les années 2000, où on était beaucoup moins exigeant à l'époque. Par exemple, Patrice Warner va projeter des images fixes, qui sont des diapositives, sur la fontaine Jacobin. Et ce qu'on peut faire aujourd'hui, vous savez que l'année dernière, on avait fait un projet en laser qui était très, très moderne. Et bien, ce type de projet-là, voilà, c'est vraiment montrer une différence entre ce qu'on faisait en l'an 2000, et qui était un très beau projet, et ce qu'on peut faire aujourd'hui, et les techniques, l'approche artistique n'est plus la même.
On a compris qu'il y avait les Jacobins, quels sont les 5 autres ?
On aura aussi une œuvre œuvre importante qui sera celle des terreaux. On a une œuvre qui était venue en 2008 qui s'appelait Il était une fois et qui était l'histoire d'un petit géant, d'un petit garçon qui s'endormait. Et cette projection d'images, avec peut-être que les gens s'en souviennent, c'est à la fois ces grosses taches de peinture qui étaient faites par les enfants sur les façades des murs et puis ce règlement qu'il avait écrit avec toutes les fautes d'orthographe qu'on peut faire quand on est petit et qu'on commence juste à écrire. Et ben, il sera de nouveau présent place des terreaux. On a par exemple La boule à neige de Jacques Rival, I Love Lyon, qui était aussi une œuvre très symbolique parce qu'elle avait marqué son temps. C'était en 2006-2007, qui revient cette année. On a les Anoukis, ces petits personnages, ces petits Esquimaux qu'on a vus plusieurs fois à Lyon, qui ont aussi toujours remporté beaucoup de succès auprès des gens, qui seront de nouveau présentés. On a une installation aussi qui est faite par la ville de Lyon, d'ailleurs par Jérôme Donat, qui est éclairagiste à la direction d'éclairage urbain et qui lui va refaire une œuvre qui s'appelle L'Agniakea, qui est un projet à la fois plastique avec presque un millier de boules et puis une projection d'images, et ça sera place Antonin Poncet. Et puis n'oublions pas non plus les illuminations de Noël. On l'avait fait venir en 2003, 2004, 2005 Ricardo Basualdo, qui est un directeur artistique d'origine argentine et qui lui travaille avec des Italiens qui viennent de la région des Pouilles et qui font comme ça toutes des installations qui sont hyper typiques des Pouilles et qu'on ne trouve pas chez nous. Et vraiment, à la fois avoir des œuvres différentes culturellement, différentes dans le temps et dans l'approche, c'est pour nous quelque chose d'important parce que sur la Fête des Lumières, on veut vraiment montrer un panel de projets et comme ça donner à tous les visiteurs et bien une vision de la lumière qui soit festive et qui soit populaire.
Ces dernières années, il y a eu un repli sur le centre-ville pour des questions de sécurité. Aujourd'hui, la fête, on a l'impression, se redéploie un petit peu à travers la ville avec des nouveaux sites cette année.
Oui, alors chaque année, on essaie effectivement d'avoir comme ça un ou deux projets hors périmètre centre-ville. Et cette année, c'est la première fois qu'on va à la Cité Jardins. On y va pour une bonne raison, c'est les 100 ans de la Cité Jardins, donc c'était l'occasion pour nous de pouvoir investir ce lieu. Et puis, on retourne aussi, on n'avait pas été depuis très longtemps, à la Croix-Rousse. Et en l'occurrence, il y aura un projet sur le Gros Caillou qui est fait par les habitants aussi, par les enfants.
On a parlé du revival, maintenant les œuvres qui sont un petit peu novatrices cette année, qu'on va pouvoir découvrir, on ne va pas toutes les citer parce qu'il y en a je crois 32, c'est ça, quelques-unes encore qui vont marquer en tout cas cette édition 2024.
Alors je pense que beaucoup d'œuvres vont marquer les gens parce qu'il y a une grande diversité, mais bien entendu la cathédrale Saint-Jean, ça fait partie aussi des gros projets de la Fête des Lumières. Et la cathédrale Saint-Jean, il y aura cette année Junal Oscher, qui est un artiste allemand, qui est un directeur artistique allemand, qui travaille en mapping et qui est vraiment reconnu mondialement et qui va nous faire une nouvelle version de la cathédrale Saint-Jean. Donc ça sera une nouvelle façon de redécouvrir ce lieu-là. On a la place des Célestins, où il y aura le collectif Scale qui installe une œuvre qui s'appelle Flux, qui est une œuvre comme ça qui est très dynamique, qui bouge, mais qui a à la fois un côté organique et très moderne. Au Parc de la Tête d'Or, on va avoir des projets aussi magnifiques, par exemple de Quiet Ensemble, qui sont un collectif italien qui va projeter des lumières, des images sur des fils de fer, et ça donne toujours une impression incroyable sur ce projet-là. On a D'Architect, qui est une nouvelle équipe d'anciens lyonnais, mais en tout cas qui ont créé cette association pour pouvoir investir le Parc de la Tête d'Or, et qui vont travailler sur une œuvre qui est à la fois organique aussi et lumière et lumineuse. Bref, on a plein de projets partout. Franchement, on essaie d'avoir une diversité de projets, mais avec des œuvres qui ont quand même du sens, parce que pour nous c'est le plus important. C'est pas de faire de l'événementiel pour l'événementiel, mais c'est toujours d'avoir un vrai sens artistique dans les projets. Et j'espère qu'avec ces nouveaux projets, les gens garderont aussi leur œil bien ouvert.
Ça veut dire quoi, avoir du sens?
Ça veut dire faire des œuvres qui sont soit reliées, par exemple, au site lui-même, soit avoir un propos artistique qui est fort derrière tout ça. Un autre exemple d'œuvre, c'est par exemple celle de Luz Interruptus, qui est un collectif espagnol qui sera au Parc de la Tête d'Ors, vraiment au bout du parcours. Et eux, en fait, ils travaillent sur la dénonciation de notre comportement en tant qu'humain en général par rapport aux déchets. Et elles vont travailler, ces deux artistes, qui sont des artistes cachés, elles vont travailler sur les plastiques, des bouteilles d'eau qu'elles vont recycler. Elles vont faire une œuvre lumière à partir de ça, parce que l'idée, c'est vraiment de pouvoir à la fois dénoncer un comportement qui n'est pas forcément bon pour la planète, mais en même temps d'avoir une approche qui soit artistique et toujours très belle pour pouvoir mettre en valeur des choses et pas dénoncer en dégradant les projets.
Un artiste aujourd'hui, et quand il travaille notamment pour la Fête des Lumières, il doit être forcément engagé?
Il ne doit pas forcément être engagé, mais de toute façon, les artistes sont généralement engagés. C'est-à-dire qu'on se rend compte, même dans des projets qu'on ne prend pas, donc plus généralement, que les artistes aujourd'hui font très attention par rapport aux matériaux qu'ils utilisent, Ils réutilisent beaucoup de choses. Ils essayent vraiment d'avoir une approche sur plusieurs années en disant que même cette œuvre qu'ils vont créer pour la Fête des Lumières, ils pourront la réutiliser plus tard. C'est vrai pour tous les artistes qu'on a sur la Fête des Lumières, parce qu'on a des critères de choix qui sont importants par rapport à ça. Mais c'est vrai aussi pour les artistes qu'on n'a pas choisi, parce que je pense que c'est, au-delà de la Fête des Lumières, je pense que c'est une tendance générale, en fait, de pouvoir utiliser des œuvres sur longtemps et plus de faire des one-shots comme on pouvait faire à l'époque.
L'idée pour une fête éco-responsable, c'est quoi? L'histoire de LED, alors ça nous remonte déjà à quelques années, là, l'invention de la LED. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, au-delà de la consommation d'énergie, pour faire une fête plus éco-responsable?
Eh bien, c'est justement de réemployer des projets, de réemployer des matériaux. Peut-être que des fois, des matériaux ont été employés à d'autres fins, et là, ils les reprennent, ils les retravaillent pour recréer une œuvre. C'est comment finalement gérer ces déchets pour pas accentuer le problème des déchets. Vous savez qu'à Lyon, on est sur une politique où on essaie de tendre vers le zéro déchet d'ici 2030. Et bien, les artistes, pour le coup, on leur demande aussi de réfléchir à ça et de toujours pouvoir imaginer une suite à leur projet.
Pour terminer, la fête est souvent victime de son succès. On a vu l'année dernière au Parc de la Tête d'Or, il y avait beaucoup de monde sur ce site excentré. Comment vous réaménagez aujourd'hui ce site pour faire en sorte que ça aille un petit peu mieux?
On a deux types d'actions. D'une part, on a changé en fait la porte d'entrée de la Fête des Lumières sur le Parc de la Tête d'Or. On ne rentre plus par la porte d'Enfants du Rhône, on va rentrer par la porte Tête d'Or qui est un peu plus loin, ce qui permettra de sécuriser la foule. Ça sera plus simple de faire la file d'attente à l'intérieur du parc, qui est beaucoup plus fluide. Et puis, par ailleurs, on essaye d'avoir des œuvres qui soient des œuvres plus contemplatives dans le Parc de la Tête d'Or, de manière à ce que les gens puissent venir au parc, voir les œuvres, évidemment prendre le temps qu'il faut pour faire des photos, pour les admirer, pour profiter des œuvres, mais malgré tout qu'il n'y ait pas de boucle comme on pouvait avoir même l'année dernière, et comme ça qu'on ne crée pas de bouchons dans les files d'attente pour voir une œuvre après l'autre.
Notez que les Lumignons du Cœur seront cette année au bénéfice d'Alinéa, le SAMU social. Rendez-vous place Satonnet pour cette œuvre emblématique de la Fête des Lumières. L'Enfant Lumière sur les quais de Saône sera accessible au public handicapé via des gilets vibrants et une traduction en langue des signes. Et puis la prochaine grande finale du Bocuse d'Or qui se tient tous les deux ans à Lyon aura lieu les 26 et 27 janvier prochains à Eurexpo. Ce sera lors du salon CIRA. Quatre sélections continentales ont dû départager 72 pays. 24 candidats ont été sélectionnés pour participer à la finale lyonnaise. Et c'est Paul Marcon qui a été sélectionné pour la France lors de la sélection européenne qui s'est déroulée en mars dernier. Le chef altiligérien avait décroché la 5e place. Deux épreuves attendent les compétiteurs en janvier prochain. Pour la première, le plateau, il sera demandé un plat chaud pour 16 personnes avec une présentation du chevreuil en pièce maîtresse. Le thème de la deuxième épreuve, les assiettes, n'a pas encore été dévoilé. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition. Excellente journée.